Monsieur, bonjour. Un billet-en-tête, c'est immédiat.
Un billet-en-tête, un quoi?
Billet-en-tête.
Un billet-en-tête, oui, ouais. Je connais très bien billet-en-tête, j'adore. J'adore.
C'est immédiat, le fou rire, le rire. Le
fou, c'est parfait, c'est toujours comme ça, de toute façon. C'est bien.
Ben, je vous remercie, monsieur.
Au revoir.
On peut arrêter de fumer.
Ouais, c'est sûr.
Billet-en-tête. Philippe Ligron et Dujat.
Grandiose panorama, Philippe regarde au loin Nanda, Vézona, et puis plus loin nous avons Nax, le balcon qui amène au Val d'Anivier, au Val d'Airain. Merde, je me suis trompé, Philippe.
La honte, salut Dujat.
C'est pas grave.
Bonjour à tous, très heureux que mon ami se plante car il est très calé en géographie. Bref, on voit pas l'Utri par contre, je la trouve assez bizarre. Ni Sarzan.
C'est enfin... la tache noire là sous les couches de gris.
En tout cas, pour cette dernière journée à Comté, enfin, nous ne sommes pas tout à fait à Comté, nous sommes encore sur la commune de Comté, mais plutôt au Mayen. Nous avons choisi de vous proposer une rencontre assez inédite dans un endroit assez peu connu, très bucolique, très joli. D'ailleurs, tu parles de panorama, je vous mettrai une photo panoramique de l'endroit où nous nous trouvons à la fin de cette émission. En attendant, je vous mets déjà la façade de l'établissement où nous nous trouvons. Il s'agit du Clair de Lune et c'est un restaurant où on mange, paraît-il, très bien, avec des produits locaux, des herbes, des fleurs, plein de belles choses. C'est rien de me jeter mon attel par le balcon.
Si, parce que ça fait des bruits sur les ondes.
C'est vrai?
Ah oui. Ah, bah, que ce soit des petits messages ou qu'on essaie de t'appeler, ça fait Dudu qui ramasse. Et les auditeurs. Et après, le réalisateur, il gueule.
Non.
Voilà.
Quelle magnifique situation. Et nous sommes donc, je le disais, tu m'as coupé dans mon élan, mais c'est pas grave.
C'est obligatoire, parce que ça sonnait. Et on entendait dans l'émission les bruits de ton attel.
Mais
c'est...
non. Alors attends, oui. Je vais mettre sur avion.
C'est pour ça que je me permets de le déplacer, parce que ça me saoule un minimum.
Voilà, et ça ne saoulera plus personne, car il est sur avion.
Voilà, nous allons reprendre, donc.
Ah, pas tout, hein.
Un petit bout.
Un petit bout.
Philippe, merveilleux panorama, disais-je.
Oui, magnifique panorama que j'ai le plaisir d'avoir pris en photo. Et je vais vous mettre en photo, en dernière photo d'émission. Comme ça, ça vous fera un joli souvenir pour cette semaine que nous avons passée à Comté. Et puisqu'on parle de Comté, donc dernière émission, on vous propose une petite balade. Comté, apparemment, est une commune assez grande au niveau superficie, puisque nous sommes encore sur la commune de Comté. Mais on a roulé un petit bout hein, pour venir au Mayen, dans un établissement assez particulier qui s'appelle le Clair de Lune. Et d'autant plus particulier qu'il est tenu non pas par un mari, une femme, ou deux maris, ou deux femmes, et est tenu par le frère et la sœur, que sont Pierre-Marie et Marie-Jeanne Evéco, qui nous font le plaisir de nous accueillir. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, où sommes-nous exactement? On commence par les dames. Marie-Jeanne?
Alors, on se situe dans les Mayens de Comté, dans un lieu dit Biola. Et les Mayens de Comté, en fait, étaient auparavant une zone dans laquelle les gens montaient donc au printemps avec le bétail et puis revenaient en automne pour y faire paître le bétail. Et puis maintenant, c'est une zone dans laquelle les gens viennent principalement donc passer leurs vacances d'été.
Pour paître aussi. Non, mais rappelons-le quand même que l'idée de monter à l'alpage...
Pour paître des herbes et des fleurs, parce que je crois qu'il y en a dans votre cuisine.
Alors, juste rappeler quand même que, pour peut-être des gens qui se rappellent plus, mais l'idée de monter à l'alpage, l'idée de monter au Mayen, c'était l'été, pour avoir des herbages peut-être plus enrichissants en termes d'arômes, mais surtout soulager les terres dans la vallée, parce qu'il n'y avait aussi pas assez à manger. Donc ça permettait de faire des regains, de faire de tout ce qu'il fallait pour passer l'hiver, voilà.
Ou alors, comme nous l'a appris notre ami du côté du château de Comté, enfin de la tour lombarde, peut-être faire des rencontres durant cette période.
Oui, c'est juste, ouais. Oui, c'est Myriam Evéco qui nous a... D'ailleurs, elle avait un petit sourire et les yeux qui pétillaient. Quand elle a dit ça, ça sentait le vécu. Je sais pas. En tout cas, la deux filles charmantes qu'on embrasse, elles nous écoutent.
Ça sentait le...
Le vécu.
D'accord.
J'ai pas dit autre chose. Mais nos invités du jour, que sont Pierre-Marie et Marie-Jeanne Evéco, ils vont nous prendre pour deux fous. Donc, non, ça va?
Oui, ils le savent déjà.
Donc ici, nous sommes au Clair de Lune. Le Clair de Lune, c'est quoi? C'est un restaurant, un hôtel, une auberge?
Alors, c'est plutôt un restaurant. Ce qui veut dire qu'on œuvre plutôt dans la bistronomie. Et on a commencé en 1989, à peu près au décès de notre père. Et on... vendait beaucoup de champignons, des fondus, des assiettes valaisannes, un tout petit peu de la raclette, et puis ensuite on a évolué un petit peu. Et puis ce qui fait qu'aujourd'hui on se trouve par exemple avec un filet de truite à la berce.
Alors, on va y aller dans l'ordre, on va revenir sur ces filets de truite à la berce. Ces champignons, vous vendiez des champignons, j'imagine pas dans un panier tout cru, vous les prépariez. Quel genre de mets c'était? C'est des mets de chalet d'alpage. Hein.
Voilà. Une croûte aux champignons.
Voilà, exactement, une croûte aux champignons, fondue aux champignons ou un sauté de champignons.
Et puis alors vous dites que vous êtes passé à la bistronomie. Bistronomie, on va voir, c'est des mets de bistrot, un peu plus soigné, un peu plus raffiné, un peu
brasserie et gastronomie.
Voilà, un peu revisité, hein, c'est-à-dire raffiné, allégé, c'est un peu la mode. Qu'est-ce qui vous a fait passer de ces mets d'alpage comme ça, assez rustique, assez franc du collier? Je dis pas que ça ne l'est pas dans la bistronomie, mais c'est quand même un peu plus prout-prout.
C'est l'évolution du temps. C'est le temps, on avance dans le temps, alors donc on modifie sa cuisine en fonction des goûts des gens aussi.
Ça veut dire on allège forcément.
Voilà, ouais, on allège forcément, ouais.
Il y a une clientèle pour ça. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une clientèle pour ça aux Mayens? Parce qu'en général, quand on vient aux Mayens, c'est pour se taper une bonne croûte au fromage, une fondue, une raclette. Là, il y a quand même un public, enfin une clientèle qui veut s'aimer.
Oui, parce que beaucoup de personnes, si vous voulez, viennent de la plaine. Alors, ils veulent manger aussi beaucoup de végétariens aussi maintenant. On voit une tendance.
Et puis viande séchée, fromage, raclette, fondue, c'est bien d'en sortir aussi parfois en Valais, Philippe.
Non mais tout à fait, mais c'est vrai qu'en alpage, je me verrais plus manger des mets d'alpage et en plaine manger des mets plus bistronomiques. Donc je me posais la question parce que peut-être que les gens qui viennent ici sont des gens qui ont l'occasion d'en manger ces mets de bistronomie dans la Valais.
Oui exactement, ils ont l'occasion, ils trouvent un... tout, mais ils viennent ici par pur plaisir.
Et je pense aussi que vos mets de bistronomie ont ceci de particulier, en m'étant renseigné un petit peu, c'est qu'ils sont faits déjà avec des produits du cru, hein, et puis avec des herbes, des fleurs aussi. Qu'en est-il de tout ça?
Alors avec des herbes comme les chénopodes, les orties, les fleurs de plantain, de la berce, des chénopodes, des orties, et un petit peu ce qu'on trouve par la travers.
Peut-être nous préciser quelle est la nature de ces différentes plantes, comment est-ce qu'on peut les apprêter en cuisine? On parle de truite à la berce. C'est quoi exactement?
Alors, la truite à la berce, c'est donc un filet de truite en général du pays, qui est donc servi avec une sauce dans laquelle les graines de berce ont été infusées. Et puis, ça intrigue toujours beaucoup les clients, parce que pour beaucoup, l'utilisation donc de plantes sauvages dans la cuisine, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, pour moi qui suis au service, c'est toujours très intéressant parce que je dois toujours informer le client au niveau du goût, par exemple.
Qu'est-ce que vous leur dites par rapport au filet de truite à la berce?
Donc, je leur explique premièrement que la berce, c'est une plante que l'on trouve de façon assez fréquente dans les prairies ici. Et puis, que on l'appelle la berce à pattes d'ours parce que les feuilles de la berce ressemblent donc au-dessous des pattes des ours et qu'on peut utiliser donc dans la plante les feuilles. Et puis, que dès que les fleurs donc tombent, il y a ces petites graines qui se forment. Et ces petites graines, quand on les goûte à premier abord, il y a une petite saveur un peu amère, mais qu'il faut dépasser cette amertume pour retrouver en arrière-bouche un bon parfum d'agrumes qui se marie parfaitement avec le poisson.
Philippe, le filet de truite à la berce, à ne pas confondre avec une de tes réalisations, le filet de truite à la bercée, en hommage à cette soirée mémorable que tu as passée avec notre conseiller fédéral un soir à Zermatt.
Exactement.
Bille en tête.
Tu as déjà entendu parler de cette berce?
Pas du tout, non, non. Puis moi, je suis pas très calé dans toutes ces herbes de montagne, j'y connais pas grand-chose. C'est pas dans ma culture et justement, ma question, c'est comment en êtes-vous arrivé là? Qui va ramasser ces plantes? J'imagine que c'est vous. Et comment vous êtes orienté comme ça, de passer de la croûte au fromage à la berce et à toutes ces choses? Est-ce que c'est un héritage familial ou un intérêt complètement individuel?
Pierre-Marie Evéco d'Ambi en tête.
Oui, bon, écoutez, c'est par pure recherche personnelle. J'ai trouvé ça. Puis il fallait aussi que je trouve quelque chose pour agrémenter, si vous voulez, une carte. Juste histoire de pas avoir la même carte, les mêmes choses, les mêmes mets que les autres, quoi.
J'ai l'impression que c'est une obsession.
Ouais.
Non, mais dans le bon sens du terme, une obsession positive.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire se renouveler, chercher des choses qui sont ici, sous nos yeux, sous nos nez. Ouais. Et parfois, on oublie qu'on peut utiliser plein de choses que les anciens pratiquaient.
Oui, exactement. Puis maintenant, bon, on va partir un petit peu plus sur le végétarien. Il y a des terrines, il y a une terrine de légumes par exemple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire comme ça. Il y a des flancs de légumes sauvages. Alors c'est très intéressant parce que d'une part ça vous fait sortir de la pure routine quoi.
Ouais, tout à fait. Mais comment on en vient à ça? Je veux dire ça demande quand même une certaine connaissance. C'est à travers les livres ou c'est un héritage familial?
À travers les livres, une littérature, des bouquins de François Coupland, des bouquins de ce style, quoi, qui vous fait intéresser, en quelque sorte.
Marie-Jeanne voulait rajouter son grain de sel.
Alors moi, je voudrais rajouter mon grain de sel parce que, en fait... Oui, peut-être pas un grain de verse. Mais en fait, ça a été pour nous aussi une nécessité d'évoluer dans ce sens. Parce qu'on s'est trouvé donc face à des grands changements d'habitude de consommation. Donc la clientèle que l'on a connue donc avec mon frère quand on était enfant, parce qu'on a commencé à travailler très jeune, à aider nos parents quand on était petit. Donc avant, on avait beaucoup, beaucoup de va-et-vient. Et puis les gens venaient manger des mets traditionnels. Et puis après, petit à petit, donc ces habitudes ont changé et on a dû donc prendre de bons virages au bon moment pour pouvoir continuer donc à rester ici et à vivre de notre travail. D'où cette évolution qui a été nécessaire. Et puis aussi pour attirer une clientèle toujours de plus en plus large, puis comme Pierre-Marie vient de le dire, aussi pour nous démarquer, pour trouver, en marketing, notre niche, pour nous démarquer de la concurrence.
La cuisine, vous l'avez apprise comment? Au contact, évidemment, peut-être de la famille, mais après, il y a d'autres recherches pratiques.
Oui, ça a été un contact familial, mais après, il y a eu 3 ans d'apprentissage de cuisinier, un parcours vraiment classique, si vous voulez. Quoi.
Où ça?
Pas de cheville.
Et ça fait mal?
Non. Non, ça fait pas mal du
pas
tout.
Cheville.
Pas de cheville.
Cheville. Vous avez dû passer devant en montant.
Et là-bas, qu'est-ce qu'on apprenait? C'était quelle sorte d'apprentissage?
C'était un apprentissage d'une cuisine classique. Alors, c'était pas mal, mais c'était
les
bien.
Les fondamentaux, c'est bien toujours, quand même. Voilà, la bonne cuisine bourgeoise, c'est française.
On est quand même obligé d'avoir les notions de base pour arriver à quelque chose.
On le répète souvent, on a l'impression d'enfoncer les portes ouvertes. Il y a beaucoup de nouveaux cuisiniers qui n'ont pas forcément passé par ces étapes de cuisine bourgeoise, cuisine française assez classique, et finalement qui la méprisent entre guillemets. Et on se dit que ça reste une arme essentielle parfois.
Alors ça reste une arme pour deux raisons, je vais vous dire pourquoi. Déjà premièrement parce que ça te permet de comprendre ta cuisine, c'est-à-dire de pouvoir... avoir une cuisine efficace, c'est-à-dire faire des réductions, des fontes, ce genre de choses qui te permettent d'avoir une cuisine personnalisée. Si tu commences à faire des poudres, ben forcément tu auras une cuisine standardisée. Donc le fait de connaître son métier au niveau technologique, ça te permet aussi de comprendre tes méthodes de cuisson, ça te permet de pouvoir rationaliser au mieux tes préparations. Puis deuxièmement, on sait qu'en cuisine, dans la restauration générale, on a des coefficients qui sont très faibles. En tout cas, si vous voulez un jour vous mettre restaurateur pour devenir riche, je vous dis direct, voilà, nos invités sont morts de rire, c'est vraiment pas le bon filon.
C'est la meilleure blague de la semaine, Philippe.
Voilà, parce que c'est un métier, on a une marge qui est très très faible, on est à 1,7, 1,9, donc il faut bien connaître son métier pour pouvoir s'en sortir. Et souvent les restaurants qui fonctionnent pas sont des restaurants où le cuisinier n'a pas une formation conséquente en termes d'apprentissage qui te permet de comprendre que la gestion des déchets il y en a pas et faut tout réutiliser, faut valoriser tout, d'autant plus qu'on vit dans un monde où maintenant tous les déchets coûtent cher, donc il faut essayer de rationaliser ça. Donc avoir une bonne formation, c'est vital pour la pérennité d'une entreprise.
Une question un brin pernicieuse, est-ce que de partir vers plutôt des choses végétariennes, c'est pas une manière d'avoir plus de marge, parce qu'on sait que ça coûte quand même moins cher acheter des légumes que de la viande?
Non, à 5 francs 60 le kilo de brocoli, ça va pas mal, ouais, de ce côté-là. Alors non, mais c'est une tendance que beaucoup de personnes, et il y a beaucoup de personnes dont des personnes de des gars, si vous voulez, qui eux arrivent, alors ils veulent une bonne côte de veau, mais avec des légumes, c'est tout.
Pas de farine.
Plus de féculents.
Ouais.
D'ailleurs, l'autre soir, je me suis fait une côte de bœuf 800 grammes, mais uniquement avec une salade de choux. J'ai évité toute friture.
Salade de choux. Ça a été la nuit.
Cold slow. C'est pas toi qui dors à côté de moi, Philippe.
Je ne prépare pas.
Sinon, j'aurais rajouté des oignons.
À guerre, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de parcmètre.
Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le cost. L'allégorie des madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé y'a plus de speakerine. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylé la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète qui pique cette digue solité à l'élite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette s'attoquine et rime avec pop soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec des lectations. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses lisse de la miss, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Message que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète.
Bonjour, c'est l'émission Bille en tête sur la première.
Oui, et puis, qu'est-ce que c'est pour une connerie ça?
Ah bah c'est une connerie presque quotidienne, du lundi au vendredi, de 9h30 à 10h.
Vous connaissez cette émission, vous? Puis quelle est votre question?
C'est sur Comtet.
Là où on vend le fromage?
Ouais.
Ah mais je connais pas.
Ah non?
À côté de Sion, Comtet.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bah quoi, qu'est-ce que vous voulez comme question en fait?
On y est toute la semaine et je voulais savoir si vous connaissiez cette commune.
Ah bah je connais, c'est à côté de Sion, il y a Vétreux, Comtet, je connais, il y a Châteauneuf.
Oui, mais ça ressemble à quoi?
Bah c'est un village, hein.
Ouais. Nous on était au Mayen de Comtet.
Ah d'accord, bah c'est tout ce que j'ai comme question.
Dans un restaurant, il y a de la nourriture, mais il y a aussi des boissons. J'imagine que c'est vous, Marie-Jeanne, qui vous occupez des boissons, puisque je crois savoir que vous êtes en service et le frangin en cuisine. Au niveau des boissons, est-ce qu'on revoit aussi sa manière de faire? On a vu que Pierre-Marie, lui, s'est dit, je vais partir sur les plantes, et tout ce qui est végétarien, etc. Est-ce que vous, de votre côté, vous faites aussi une démarche, peut-être pas dans le même sens, mais en tout cas dans un sens bien particulier?
Oui, alors effectivement, on a constaté aussi depuis plusieurs années un changement d'habitude donc de consommation au niveau des boissons. Nos clients consomment moins de vin et sont beaucoup plus attentifs donc à d'autres boissons, par exemple sans alcool. Nous produisons nous-mêmes différents sirops avec des plantes aromatiques telles que du romarin, de la mélisse, du thym, de la spirule odorante. On fait un apéritif d'autres fois avec par exemple du sirop de fleur de sureau et du johannisberg. C'est un genre de kir local qui se faisait avant dans le temps. Et puis assez régulièrement on fait des boissons froides par exemple avec de l'achillée millefeuille, du citron ou des fois des menthes froides. On tâche donc de faire des propositions donc qui vont dans le sens de la cuisine que l'on fait. Et puis nous avons une clientèle aussi qui est très intéressée par les tisanes. On a des plantes qu'on cultive pour les tisanes. On a toujours de la verveine fraîche, de la menthe poivrée fraîche, de la sauge, et puis encore d'autres assemblages de thé, et ou même des fois de la camomille sauvage, du sanetch. Et là, alors on se rend compte, de par peut-être le travail que l'on fait au niveau de la cuisine, qu'il y a une sensibilité pour des boissons de plus en plus naturelles.
J'aimerais m'adresser aux auditeurs les plus jeunes pour qui tout ça semble normal, hein, boire des tisanes, manger une truite, déguster des brocolis. Il y a 30 ans, quand j'étais enfant, les gens faisaient l'apéro en plaine buvaient 10 bouteilles de blanc, 3. Ils montaient en fumant des clopes dans la bagnole avec les gosses derrière. Ils arrivaient, c'était plateau de charcuterie, des frites pour les gosses, on mélangeait la charcuterie, les frites, les bières pour les parents, des bières pour les gamins aussi, mais avec un petit peu de grenadine. On donnait des clopes aux enfants qui s'allumaient des clopes, qui faisaient comme les grands. Après, il y en a certains allaient derrière le bâtiment s'enrouler des gros. Hein, ça schlinguait, on ne sait pas trop quoi. Les gens revenaient, commandaient des croûtes au fromage, des côtes de porc avec des pommes sautées, de la sauce, de la béarnaise, de la mayonnaise, une fondue chinoise pour le dessert. On redescendait après 3 Viamines, en allumant un cigare dans la voiture où les enfants étaient en train de vomir par les fenêtres.
Sans ceinture
de sécurité. Et maintenant, les mêmes 30 ans après viennent et disent « J'aimerais un brocoli et une tisane. » Les enfants.
Et c'est vrai.
Les enfants, je pense que les parents...
Je caricature à peine.
Non, c'est tout à fait vrai, ouais. Peut-être.
Cela étant, est-ce qu'on se marre, est-ce qu'on rigole autant qu'auparavant lors des banquets de famille ou des repas entre amis?
Ouais, on se marre plus longtemps, j'ai envie de dire, parce que avec la vie que tu dépeignais avant, sans ceinture de sécurité, la montée, la descente, je pense que la vie était plus courte aussi, quelque part en voiture. Quoi qu'il en soit, oui, je pense que après c'est une manière d'approcher les choses. Si tu mets en avant le côté santé, médicinal et tout, c'est pas très sexy, mais après si tu mets le côté découverte, aromathérapie, je veux dire, tout ça, ça donne
envie.
Comment
c'est champi, hein.
Moi, j'ai une question peut-être pour Pierre-Marie. Ouais. Tout ça, c'est bien joli, mais ça prend une pétée de temps. On l'a vu, il y a beaucoup de chefs de cuisine qui se sont lancés il y a quelques années dans les petites fleurs des montagnes et tout. Et puis qui, après, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient trouvé la combine. Ils créaient des cours où les premières fois, ils allaient. Puis après, c'était les élèves qui allaient chercher les plantes pour eux. Et pour finir, ils ont embauché des gens pour aller leur chercher les plantes. Et maintenant, je crois qu'ils se les font livrer. Donc... C'est très chronophage tout ça. Est-ce que, non, ouais, comment on arrive à joindre les deux?
Je vais les chercher moi-même. Donc, mais ici que nous sommes quand même situés à 1400 mètres, il y a eu très très peu de changements, si vous voulez, au point de vue des prairies. Alors je fais 20 à 25 minutes en voiture et puis je tombe exactement sur les plantes que je veux.
Oui, ça prend du temps, ça. Quand on est seul en cuisine, on doit gérer. Ça va?
La nuit, Philippe, avec une lampe spéléo.
Une lampe frontale.
Ça m'arrive d'aller la nuit, ouais, quand je vais chercher des orties, comme ça.
Pourquoi la nuit?
Bah, tu vois rien, tu les trouves touchés.
Ah, ça pique, je suis arrivé.
Attention de mettre un slip quand même. Peut-être un florilège des plats que l'on peut déguster ici, au clair de lune, au Mayen de Comté.
Alors, il y a les rognons au miel, un filet de bœuf à la truffe, du ragoût de veau avec des chénopodes et des orties, et ensuite, comme entrée, il y a une ratatouille, j'ai du foie gras également, foie gras à la rhubarbe, et ainsi de suite.
Philippe, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Moi, ça m'inspire, c'est le veau, le ragoût de veau, c'est ça, avec les génopodes, c'est ça, et là, et les orties. Ça, j'aimerais bien goûter.
Avec des arthropodes aussi, vous faites?
Ça dépend de l'humeur.
C'est quoi exactement, les génopodes?
Les chénopodes. Oui, c'est les épinards sauvages ou les épinards, bon, Henri.
Tu connais pas ça, Philippe?
Moi, je connaissais l'ancêtre de l'épinard qui s'appelle la roche, sauf erreur, aroche. Il y a du vert et du rouge, très intéressant. Puis c'est un légume qui a été abandonné au 19e siècle, quand l'agriculture s'est industrialisée parce que c'était pas mécaniquement rentable. Donc on est plutôt parti sur cette variété d'épinards, mais je connaissais pas ce dont parlait Pierre-Marie avant.
Des poissons aussi, des plats végétariens, vous évoquiez, on peut voir quoi?
Alors, comme plat végétarien, vous avez pas mal de produits à base d'éblis, si vous voulez, de légumes, de fromage de brebis que nous trouvons du côté du Sanetch. Et puis comme poisson, il y a de la truite, il y a ce que je trouve, si vous voulez, sur le marché.
Le client est prêt à ça, monter ici puis se dire, ah ben non, il y a pas de truite parce que la pêche n'a pas été fameuse, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça. Le client est de plus en plus ouvert à ce genre de modification.
Ouais, je vous ai dit, je suis étonné à la fois de l'aspect des choses qui sont végétariens. De la truite, il n'y a pas uniquement que de la viande. Les gens, ils sautent sur beaucoup de choses à côté. Et ils sont un petit peu curieux, ce qui fait que vous leur proposez certains mets, et puis ils se disent, ah tiens, bah, c'est bon, alors on va quand même essayer, quoi.
Des desserts aussi, avec toutes ces plantes?
Je fais des gâteaux, des flans, des panna cotta, et ça, je les interprète à ma façon, si vous voulez, quoi.
On sent qu'il y a un côté instinctif qui peut varier de jour en jour.
Voilà, exactement, ouais. C'est l'instinct et la variation.
On a l'impression que vous n'aimez pas tellement être prisonnier d'une carte.
Ouais, c'est vrai. Ça m'a... Une carte, bon, c'est pas... Vous pouvez toujours faire autre chose, quoi. Vous pouvez faire des madeleines au géranium, par exemple. Il y a beaucoup de choses comme ça.
Des géraniums ici.
Et c'est pas toxique, les géraniums, pour l'alimentation humaine?
Non.
Géranium pelargonium. On cultive du géranium pelargonium, qui est utilisé donc sans aucun souci en cuisine.
Philippe, l'idée de ne pas avoir de carte, on a l'impression que ça se popularise dans les restaurants. Alors, un ou deux plats, puis on demande un peu l'intuition, avant parler de la suggestion du chef, on a l'impression que c'est un peu l'intuition du chef ou la découverte du jour, ou l'envie du chef.
Tu sais, ça c'est très tendance, et je veux dire, moi je travaille aussi selon ça, puisque je suis cuisinier aussi, et tu peux pas t'imaginer comme c'est merveilleux pour un cuisinier. Et je plains et je rends hommage à tous ces cuisiniers qui travaillent dans des boîtes, qui font des planifications une année à l'avance. C'est-à-dire qu'ils savent une année à l'avance qu'ils vont devoir faire, ce qui est complètement absurde pour une histoire de soi-disant... pour une histoire de rationalisation, on fait les commandes une année à l'avance. C'est souvent
dans les cafétérias d'entreprise.
Voilà, souvent dans les grandes boîtes de gestion de restauration. Et ça, c'est... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces cuisiniers-là, parce qu'ils travaillent pas avec les meilleurs outils. Quand tu fais travail comme ça, il faut avoir une sacrée foi le matin pour venir au travail. Quand tu te lèves le matin, et je te dis ça, regarde, j'en ai la chair de poule, quand tu te lèves le matin et que tu dis, je vais aller au marché et je vais faire la cuisine à mes clients, un peu ce que fait Pierre-Marie, c'est-à-dire de te dire, aujourd'hui, je vais faire ça parce que j'aurai envie de manger ça. Et ça, je peux dire, c'est un sacré luxe en cuisine. Et de plus en plus, les clients se rendent compte de ce genre de subtilité qui exacerbe un peu la sensibilité même du cuisinier et de sa cuisine. Et ça, c'est très, très important. Et heureusement, ça va être de plus en plus.
Un superbe balcon, une superbe terrasse, des mets à découvrir, de l'intuition, du sixième sens, de l'émotion, Philippe, à découvrir ici, au clair de lune, au moyen de Comté. Je crois que Jeanne-Marie est hilar.
Oui, effectivement.
C'est Marie-Jeanne, c'est pour ça qu'elle rigole.
Je dis Jeanne-Marie.
Oui, mais c'est pas grave. Mais toi, les prénoms, c'est pas ton truc.
Non, moi, c'est plutôt la baston, mon truc.
Quand on passe Comté, on monte sur les Mayens, et un peu comme nous qui avons persévéré, à un moment on a l'impression d'être perdu, il faut continuer à grimper parce qu'à un moment on tombe sur le clair de lune en plein jour. Eh oui!
Merci beaucoup Philippe pour cette belle semaine.
Ah ben merci à toi, du genre, on a bien rigolé, on a rencontré des gens fabuleux. On reviendra en Valais, c'est pas mal. Hein.
On reviendra à pied.
À pied?
Ouais.
Pourquoi à pied?
En randonnée. Par depuis Comté à pied, on monte et on vient manger ici.
Ben c'est super, écoute, tu pars devant, moi je prenais la voiture. Allez, bon week-end à tous. On vous retrouve lundi pour une émission peut-être un peu plus urbaine.
La première, il est 10h.